Aujourd'hui, maman est morte.
Faites-vous quelque chose de sale, hein? Faites-vous par exemple une chose dont vos parents ne savent rien.
Faites attention à bien savoir jusqu'où vous allez trop loin.
Outrepassez-vous les règles.
Tu t'appelles Buck. C'est ça. Ça rime avec fuck. C'est bien ça.
Le canard siffleur mexicain, un programme littéraire, musical et parfois cinéphile.
Il y avait donc Brassens, Léo Ferré, Mouloudi, Moustaki, c'est mon frère.
Couvésien, bonjour.
Bonjour, Gonzalo.
Comment te portes-tu ?
Très bien. Et toi ?
Magnifiquement.
Bon, c'est super.
Tout va bien. De qui, de quoi nous parles-tu ?
Je vais vous parler d'un auteur argentin qui s'appelle Marco Donnevi. Et donc, je vais vous parler de son premier roman qui s'intitule Rosa ce soir.
Qui est ce monsieur ?
Bon, c'est un écrivain argentin, voilà. qui est né en 1922 et donc qui a touché un peu à tout, au théâtre, au cinéma, qui a écrit des essais et donc qui a écrit des romans. Et pendant longtemps, il a été pressenti pour être prix Nobel de littérature, qu'il n'a pas eu. Malheureusement, mais bon, si ça n'empêche rien, ça n'enlève rien, pardon, à son talent. Et voilà, donc je voulais vous présenter tout l'intérêt de ce premier roman. Voilà, très rapidement. Donc ce premier roman, en fait, l'histoire, c'est celle d'un personnage qui a un nom particulier, qui va évoquer quelque chose pour toi, Camilo Canegato, donc chien-chat, c'est ça. Donc Camilo Canegato est le personnage principal de ce roman. Donc il vit dans une pension de famille, il est restaurateur de tableaux, c'est quelqu'un de très introverti, très secret. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va s'inventer une histoire d'amour, voilà, il va l'inventer, et avec une personne qui existe réellement, et cette personne va mourir. Donc il va y avoir, on devine, une enquête policière. Et en fait, ce roman se compose de quatre parties, et les trois premières parties, on pourrait penser que ce sont trois dépositions. La patronne, enfin celle qui tient la pension de famille, un autre pensionnaire, lui, Camilo, et puis une quatrième partie où on découvre la vérité derrière la mort de ce personnage. Et donc, la patronne de la pension de famille et puis ce pensionnaire vont nous révéler leur façon de voir Camilo Canegato derrière ses airs introvertis, comment il le percevait réellement et comment on peut réécrire l'histoire, comment on peut inventer même la vie d'une personne sans vraiment la connaître. C'est ça qui est très intéressant. Voilà. Donc je propose un premier passage de lecture.
When you're tired and lonely and And your heart has nowhere to head. Think of me, I'll be thinking somewhere. All of those things that you said. But don't be cruel to me. Don't be cruel to me. Cause I'm looking for someone to find me. I'm looking for someone to love. I'm hoping that someone will find me. I got no one to love. When your days are plagued by loneliness, you got no one to call. My name's here in the phone book. I'll be straight round to yours. Don't be cruel to me. Don't be cruel to me. Cause I'm looking for someone to find me. I'm looking for someone to love. I'm hoping that someone will find me. I got no one to love. I got no one to love. I'm hoping that someone will find me. Someone to call my own. Someone who will be kind to me. Cause I got no one to love. Life that ain't working, and your heart is heavy inside. Well, it's time to think of leaving. All that darkens your mind. Don't be cruel to me. Don't be cruel to me. Cause I'm looking for someone to find me. I'm looking for someone to love. I'm hoping that someone will find me. I got no one to love. I got no one to love. I got no one to love. I'm hoping that someone will find me. Someone to call my own. Someone who will be kind to me. Cause I got no one in this world or this life I need. Someone to love.
Donc c'est ce pensionnaire qui est étudiant en droit et donc qui est un savant hein, qui le fait bien passer à travers tout ce qu'il exprime. Et donc il s'adresse à un policier, enfin on le devine, et voilà ce qu'il dit. Donc Camillo Calnegato a été entouré d'un paravent de simulation, de mimétisme, mais j'ôterai pour vous cet écran et vous le verrez tel qu'il est. Évidemment, je vous préviens que ce que je vais vous dire et ce que j'ai élaboré, induit, vous m'en comprenez, à partir de nombreux faits, de nombreux indices. Je vous présente maintenant la théorie complète et corroborée, ratifiée, démontrée. Je vous expose la thèse, l'hypothèse, la démonstration. Mais avant, il y a eu un temps où moi aussi j'ai été déconcerté, où j'étudiais l'affaire, où je rassemblais des éléments de jugement. Maintenant, avec tous les fils en main, je peux parler sopra sicuro. Physiquement, vous le connaissez, une sorte d'avorton, les jambes, le corps, les bras, tout chez lui est à échelle réduite. Ce n'est pas un homme, c'est la maquette d'un homme, un échantillon gratuit. Un étudiant de médecine le voit, il est tenté de faire une vivisection pour étudier l'anatomie sans avoir besoin de recourir à un cadavre. Mais ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Bon, vous, il ne vous aura pas trompé. Mais les autres, les gens comme ça, les profanes, il les leur. Il le voit sous cet aspect de grue effarouchée et prête à s'envoler, avec ses petits yeux qui ne savent que faire de leur regard, et ils le prennent pour un pauvre diable. Méfiez-vous de ce petit homme, apparemment timide et lymphatique, et méfiez-vous de lui précisément à cause de sa vulnérabilité physique, une infirmité organique, ou pour parler plus clairement, donc là il y a un terme allemand qui est prononcé, donc je ne vous lirai pas, produit de profonds complexes spirituels, produit du ressentiment, des remords, des phobies. En un mot, de la haine. Et une haine de la pire espèce, car sa cause est dans le sujet qui est. Elle est chez le type qui est. Il porte en lui le motif, l'objet de sa haine. Il est sujet et objet de sa propre haine, vous voyez ? Et pour ce genre de haine, il n'y a aucun remède. Rappelez-vous Nietzsche, il n'y a pas de rédemption pour celui qui souffre de lui-même, si ce n'est une mort subite. Ces types se font constamment marcher dessus. N'importe qui s'oppose à eux. Et ils ne peuvent se protéger que par le camouflage, la passivité, le mimétisme. En souriant et en se taisant. En un mot, en supportant. Et c'est là qu'est le danger. Dans le fait qu'ils supportent, qu'ils sont obligés de supporter, parce que supporter, comme vous le savez, c'est de l'énergie intérieure, une force qui devait être centrifuge, et vous la tordez, vous la retournez, et la rendez centripète. Et alors, bien sûr, c'est ce que fait l'homoncule, il supporte, la domination, l'échec, la solitude, les passe-droits, il supporte tout. Donc là, on a le portrait psychologique de celui qui va être accusé, donc qui est le personnage principal, qui va être accusé du meurtre de Rosa. Et ce portrait psychologique, comme j'ai dit, il est dressé par un autre pensionnaire devant apparemment un policier. Et donc on va comprendre que tous les pensionnaires, en fait, ne connaissent pas Camillo Canegato, mais ils vont composer un personnage à partir de déductions. Voilà.
Until we find a better one.
un autre passage où là on va avoir donc toujours une description du même pensionnaire. Et j'ai vu les pierres énormes, brutales, que les autres lui lançaient au visage. Madame Milagros, donc la propriétaire de la pension, la première par exemple, elle le traitait sans aucune considération, de façon despotique, matriarcale. Camilo, venez ici, Camilo, faites ça, Camilo, ne soyez pas idiot. Elle l'exploitait, c'est la vérité. Elle prétend l'aimer comme un fils, mon œil. Je ne dis pas qu'elle ne le traitait pas comme un fils, comme une mère autoritaire peut traiter un fils faible, mais sans la tendresse d'une mère. Petite différence, hein. Parce qu'elle le dominait comme elle voulait. Elle dit qu'il était comme de la famille. Et alors ? Ça aurait dû être le contraire. Un autre exemple, Coretti. Coretti est un type épatant. Je ne dis pas un chouette garçon, mais son esprit n'est qu'une facette. Il a un caractère monovalent, sans nuance. Il arrivait qu'on applaudisse à ses plaisanteries, mais il n'était pas possible de le faire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On n'a pas parfois envie de tout prendre à la rigolade, et Coretti est le type idéal pour ça. Mais mon cher, on ne peut pas passer sa vie à faire des blagues et à rire. Vous savez, les types comme Coretti finissent par être lassants. Le premier jour, vous êtes enchanté, quel homme gay, vous riez, mais après, vous ne le supportez plus. Vous voulez lire et il fait des blagues. Vous avez mal à la tête et l'autre vous assomme. Vous lui présentez votre fiancée et l'autre vous met en boîte et tourne ça en ridicule. À la fin, vous l'envoyez au diable. Bon, comme nous nous faisions tous plus ou moins respecter, Coretti choisit Camilo pour cible. Mais attention, Coretti faisait des blagues aux dépens de Camilo, mais sans s'adresser à lui. Il le prenait pour objet de ses blagues, mais en l'écartant des réjouissances. Il faisait en sorte qu'il se sente comme une chose drôle qui excitait le rire. Donc là, à nouveau, autre point de vue donc, du personnage principal à travers un autre pensionnaire qui est Coretti. Et donc, on ne connaît toujours pas la vérité. Et un peu plus loin, donc au fur et à mesure qu'on avance dans le roman, on va avoir la description de la morte, toujours du point de vue d'un des pensionnaires. Donc, je rappelle que c'est l'autre personnage principal qui est Rosa et qui donc apparaît dans le titre. Quant à elle, hola, camarade, quelle femme splendide! Ses yeux, ses cheveux, cette voix, une voix un peu rauque, chaude, humide. Une voix de colombe blessée, comme dit Bialik. Vous ne pouvez savoir, vous ne l'avez pas connue. Vous ne connaissez pas ce mannequin rigide qui est maintenant à la morgue. Mais si vous l'aviez connue comme elle était vivante, comme elle parlait, on aurait dit qu'elle vous effleurait le diaphragme avec un jonc. On aurait dit qu'elle vous touchait à l'estomac et on sentait ici comme une faiblesse, un vide, à vous en faire perdre l'appétit. Bien, ils se rencontrèrent grâce à cette histoire de restauration de tableaux. C'était une de ces splendides femmes sensitives, comme les grandes amoureuses de Goethe. Ces femmes que leur éducation bourgeoise, vous voyez ce que je veux dire, font quelque peu faner. Elles ne jouissent pas de liberté animique. Elles doivent passer leur vie enfermées chez elles, au milieu des personnes médiocres, sans horizon spirituel, sans satisfaction, sans épanchement, jusqu'au jour où elles s'unissent à un homme qu'elles n'ont pas choisi, qui ne les comprend pas et qu'elles n'aiment pas ou qui, si elles l'aimaient, les déçoivent très vite. Vous comprenez qu'en général, ces femmes qui vivent frustrées spirituellement attendent que l'amour leur apporte la compensation dont elles ont besoin. Elles se font de l'amour une idée chimérique, hypertrophiée, et quand elles se marient et que l'homme ne les comprend pas ou n'est qu'un grossier incapable d'être à la hauteur de leur sensibilité, elles souffrent horriblement. Et alors, bien sûr, il se produit une scission dans leur structure spirituelle. La réalité leur est haïssable. Et pour s'en évader, elles se fabriquent un autre monde, un monde imaginaire, celui de l'imagination et des rêves. Freud le dit bien, la répression conduit au déplacement et le déplacement à l'évasion. La femme qui s'évade vit dans deux hémisphères à la fois, celui de la réalité quotidienne, où se trouve son mari, où sont ses devoirs d'épouse, et celui de la rêverie sublimée, où elle est princesse ou artiste de théâtre et a pour amant le jeune homme pauvre qui habite à deux pas. Voilà des portraits psychologiques qui sont relativement fins, moi je trouve, et donc qui dressent le portrait. Donc on est toujours dans une notion de déposition. Et donc apparaît un peu plus loin, toujours à travers ce que dit ce pensionnaire, comment Camilo a pu séduire donc Rosa. C'est alors qu'il parut, ce fut une de ces stupides dérisions, un de ces tours maladroits du destin. Dans le musée, Camillo Canegato fut la pièce neuve qui rompait, au moins pour un temps, la routine et l'ennui. Croyez-vous que sinon l'amour de Rosa pour Camillo pourrait s'expliquer? S'il vous plaît, mais non. Ce n'était pas de l'amour. Elle n'a jamais été amoureuse de lui. Ce fut un pur effet de contraste. Dans d'autres circonstances, dans des circonstances qui auraient permis la comparaison, elle n'aurait même pas remarqué un bonhomme pareil. Mais elle baignait dans une terne atmosphère de veillée familiale. J'ai dû les lire quelque part, avec la prière d'une vierge en musique de fond, des dimanches passés à jouer au loto, des samedis à recevoir la visite des parents en deuil, des hivers près de la cheminée à lire Florence Barclay, et un jardin plein de pots de pivoine et de bégonia, bien en rang sur une balustrade couverte de mousse. Et c'est au milieu de ce décor, fin de siècle, que tombe Camillo, comme s'il tombait du ciel. Peintre. Tous les peintres ont une auréole, presque toujours fausse, de bohème, de romantisme sentimental à la Puccini, de génie triste et douceâtre. Elle le vit, perçut le contraste, le vit différent, l'orna de tout ce qui était à l'intérieur d'elle-même. Elle peignit avec de la boue la peau de Vénus. Souvenez-vous de Delacroix, et voilà Rosa subjuguée par Camillo. Quant à lui, il dut s'apercevoir tout de suite de l'impression qu'il avait faite à cette jeune femme. Imaginez un peu un pauvre diable comme lui, qui devenait soudain, par le hasard des circonstances, l'objet d'admiration d'une jeune femme belle et riche.
Blue river, wider than a mile, I'll be crossing you in style someday.
Et donc, dans la troisième partie du roman, enfin intervient la déposition de Camillo, le personnage principal. Et donc, il raconte que l'histoire, il l'a inventée. Je l'ai inventée pour briser la loi de l'indifférence. Ah oui, monsieur, certains se plaignent de la haine, mais ils ignorent que l'indifférence est pire que la haine. Car la haine est comme un feu qui cherche à détruire, mais à détruire quelqu'un qu'elle considère comme une personne. Le simple fait de vouloir la détruire lui rend au moins cette justice de lui reconnaître une valeur. Mais l'indifférence, non. L'indifférence, c'est de la glace qui, en vous momifiant, vous laisse la vie suave, sauf, pardon, et ne vous la laisse que pour ça, pour que vous vous sentiez comme une momie, que vous vous sachiez momie dans le froid et l'obscurité d'un sarcophage. L'indifférence fait de vous un zéro, fait de vous ce néant de la série arithmétique qui n'additionne pas, ne soustrait pas, ne multiplie pas, ne divise pas, qui n'ajoute rien, n'enlève rien et reste en dehors de toutes les opérations. Car on préférerait parfois être un chiffre négatif qui ne ferait que soustraire, peu importe, mais qui, redouté ou détesté, entrerait dans les calculs. Ah oui monsieur, pour elle j'étais ce néant, ce zéro. Non, pour elle je n'étais pas l'oncle du vieux monsieur. Non, pire encore, j'étais le précepteur sans sexe ni instinct devant lequel elle pouvait parler d'elle-même et des hommes comme si elles étaient seules. Là il parle de la patronne de la pension et de ses trois filles. Donc voilà, on a un certain nombre de portraits du personnage principal, fait par lui-même, fait par d'autres personnes. Et donc on va se rendre compte que toute l'histoire d'amour que les pensionnaires s'étaient imaginée, en fait n'est qu'un coup monté par Camillo justement pour gagner de l'importance aux yeux de tous ces pensionnaires qui n'avaient qu'une envie, c'était de le dédaigner, de se moquer de lui tous les jours. Sauf que l'histoire va mal tourner, Rosa va mourir. Et malheureusement, comme c'est pas l'objet principal du roman, on va pas savoir comment et on va pas savoir si Camillo est vraiment le meurtrier.
Everybody talking at me, can't hear a word they say. The echoes on my mind. People stop and staring, I can't see their faces. Only shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the climate suits my clothes. Banking on the northeast wind, sailing on a stone breeze. Skipping over the ocean. Everybody talking at me, ain't a word to say. Only echo on my mind. And I won't let you leave my love behind. I won't let you.
Séduit dans ce livre, le style peut-être.
Le style et puis l'analyse, la finesse de l'analyse psychologique. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Et comment des personnages extérieurs peuvent se reconstituer la psychologie d'un personnage sans vraiment le connaître, alors que le personnage principal est a priori quelqu'un de totalement effacé, de neutre, sur lequel tout glisse. Voilà. Et donc, comment des personnes peuvent totalement, enfin, imaginer, recréer une psychologie complète.
Voilà. Fascinant.
Très. Ça se lit d'un bout à l'autre sans s'arrêter. C'est vraiment passionnant.
Merci à toi.
l'heure, parmi Dieu, pour n'être pas les